Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, Marc Bisset aujourd'hui aux manettes techniques de cette émission. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale, on en parlait il y a un petit instant avec Christelle Rebière et Vincent Parisot juste avant les informations. Une émission consacrée aux mystères et aux nombreuses zones d'ombre qui entourent encore aujourd'hui la mort d'un des plus grands écrivains français, puisqu'il s'agit d'Émile Zola. Et je leur disais que beaucoup d'auditeurs de l'heure du crime qui nous contactent, vous le savez, vous pouvez le faire quand vous le désirez, hein, sur RTL.fr. Vous allez à la page de l'heure du crime, vous avez un petit bouton soumettez une idée à l'émission, et on vous dit toujours, bah voilà, s'il y a une affaire qui vous a particulièrement frappé, vous prenez contact avec nous, vous nous laissez un petit courriel avec le nom de l'affaire qui vous a particulièrement frappé. Alors le nom d'Émile Zola est revenu très souvent ces derniers mois, on va dire, parce que un certain nombre d'auditeurs ont entendu dire que c'était peut-être pas une mort naturelle, mais un assassinat, et ils nous disent essayez de nous en dire plus. Alors c'est ce qu'on va faire, bien sûr, tout au long de cette émission, et nous allons en parler avec Henri Mitterrand, qui est mon invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que vous êtes professeur de littérature, spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola, à qui vous avez consacré 3 tomes d'une biographie qui fait autorité dans le monde entier, publiée chez Fayard. Et vous êtes aussi le président de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola. Alors, évidemment, cette question, lorsqu'elle est revenue, on va dire, ou elle a rebondi dans les années 50, on y viendra ensemble tout à l'heure, jusque-là, vous aviez considéré que la version officielle était certainement celle d'un malheureux accident domestique?
Oui, parce que jusqu'à ces années-là, le public vivait sur l'idée qu'une enquête avait été faite, avait conclu à une asphyxie accidentelle, la cheminée fermée, des choses comme ça. Et puis, l'enquête dont on parlera a subitement fait vaciller ses certitudes. Et moi, je me suis trouvé, un peu plus tard, dans les années 70, à faire partie, exceptionnellement, d'un jury de thèse de médecine. Oui. Imaginez ma compétence en la matière.
Mais j'imagine.
Voilà, le jeune interne qui soutenait sa thèse de médecine avait travaillé sur les conditions de la mort de Zola, docteur Jean-Louis Roy, qui doit être médecin quelque part, je pense, du côté de Dijon, et qui soutenait sa thèse là-dessus. Et il avait fait une enquête très précise sur le plan médical, en bénéficiant des archives que lui avait communiqué le docteur Jacques-Émile Zola, qui était le fils de l'écrivain. Et il avait conclu qu'il y avait des distorsions considérables entre l'autopsie faite du corps de Zola et puis les conclusions auxquelles avait abouti l'enquête policière et technique.
Alors ça, si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure plus longuement, mais si il y a assassinat, un bon enquêteur cherche tout de suite le mobile, à qui profite le crime. Et peut-être faut-il tout de suite rappeler à ceux qui nous écoutent que certes Émile Zola est un des écrivains les plus célèbres de son temps, c'est l'homme de J'accuse, c'est aussi l'homme de l'affaire Dreyfus quelque part, et il a déchaîné des torrents de haine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour comprendre la violence qui entourait cet homme avant sa mort?
Oui, vous savez, Zola était dans une situation, disons, un peu paradoxale. C'était à la fois, probablement, dans les années 90, l'écrivain le plus populaire, le plus lu. Et en même temps, c'est l'homme qui se heurtait à l'hostilité la plus féroce de la part de certains milieux français. Et dans une France, il faut s'en souvenir, qui était assez largement, travaillée par l'antisémitisme. Zola avait pris position une première fois.
Et par la xénophobie aussi, on l'appelait
l'italien. Par la xénophobie, et il souffrait de 2 péchés, Zola. Un, il avait écrit la débâcle dans laquelle il expliquait que les généraux français n'avaient pas été à la hauteur de leur tâche en 70. Il était assez pacifiste.
Il avait pris la défense des ouvriers, enfin, voilà. Germinal.
Exactement. Donc il avait trois sortes d'ennemis, les nationalistes, les milieux les plus conservateurs et les milieux antisémites. C'était beaucoup pour ses seules épaules. Ouais. Et vous avez raison de dire que à partir du moment où il se lance dans la défense de l'affaire Dreyfus, alors il devient une proie, vraiment un homme qu'on poursuit.
Il reçoit des insultes, des menaces de mort. Il y a une bombe qui explose quasiment sur son paillasson.
En 1901, ouais. Une bombe, un attentat un peu du type de ceux qu'on a connus dans les années 60 du siècle dernier. Il recevait des valises entières de lettres d'injures. Tout ça a été conservé par sa famille. Ouais. Et ça donne un bon témoignage de tout ça. Et en plus, il y avait le travail des ligues. Ce qu'on appelait les guides, la ligue des... On en reparlera. Ouais, la ligue des patriotes, la ligue antisémitique, la ligue de la patrie française, qui organisait des manifestations.
On l'appelait le cochon quand il est mort. Quand on a appris qu'il était mort officiellement par le monoxyde de carbone, il y a des gens qui ont écrit ou dit, en tout cas, on a enfumé le cochon, quoi. Voilà. Donc tout ça, il fallait le rappeler parce que ça peut avoir joué un rôle. On reviendra avec Henri Mitterrand tout à l'heure sur les constatations, sur l'enquête, sur les réactions à la mort de Zola. Mais tout de suite. En quelques instants, je voudrais vous rappeler les circonstances dans lesquelles cet homme qui était à la fois adulé par ses lecteurs et haï par une large partie de l'opinion de son pays, comment il est mort. Paris, 29 septembre 1902. Il est 9h30 du matin. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans Paris. Émile Zola a été trouvé mort à son domicile parisien du 21 bis rue de Bruxelles dans le 9e arrondissement. Et à 9h30 déjà, depuis quelques minutes, il y a des journalistes qui se rassemblent sur le trottoir. Madame Meunier, la concierge de l'immeuble, leur répète inlassablement ce qui vient de se passer. C'est, dit-elle, Jules Delahalle, le valet de chambre de monsieur, comme elle appelait Zola, qui étonnait de n'entendre aucun bruit venant de la chambre de son patron, en a forcé la porte ce matin, tôt, et il a trouvé Émile Zola sans vie, sur le tapis, au pied de la marche de bois du lit, légèrement surélevé. Sur le grand lit conjugal, Alexandrine, son épouse, elle, est au plus mal, elle respire difficilement. Le docteur Lenormand l'a immédiatement fait transporter à la maison de santé du docteur Defaux, à Neuilly, où elle va reprendre conscience. Il a fait venir aussi son confrère, le docteur Marc Berman, à l'appartement, mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour ranimer Zola, et celui-ci sera officiellement déclaré décédé à 10h du matin. Émile Zola et sa femme Alexandrine étaient rentrés la veille à Paris. Ils avaient passé l'été, comme chaque année, dans leur propriété de Médan, au bord de la Seine. En arrivant en fin de journée dans l'appartement de la rue de Bruxelles, Alexandrine avait demandé qu'on allume un petit feu dans la chambre. Mais le valet de chambre, donc Jules Delahalle, qui les avait précédés de quelques heures, lui a expliqué à ce moment-là qu'il avait déjà fait une petite flambée dans l'après-midi, dans la cheminée de la chambre, mais qu'il avait remarqué que cette cheminée tirait mal. En fait, dit-il, la chambre a été envahie de fumée, et il explique qu'il avait dû ouvrir les fenêtres en grand. « Bon, ben, on verra ça demain », avait dit Alexandrine. « Faites venir les fumistes dès que possible. » Et elle avait bien sûr interdit qu'on allume un nouveau feu dans l'appartement. Le commissaire Cornette du commissariat du quartier Saint-Georges est bien sûr prévenu de ce qui vient de se passer. Il est prévenu à 10h20. Il se rend immédiatement sur place, il examine les lieux et il conclut à un empoisonnement accidentel par médicament dans un premier temps. En effet, il a trouvé sur la table de nuit une bouteille d'eau chloroformée, à moitié vide. Quelques articles de presse suggéreront d'ailleurs dès l'après-midi que Zola a été empoisonné par sa femme. D'autres diront que l'écrivain s'est suicidé. Mais bientôt, Alexandrine Zola est ranimée et ce qu'elle raconte permet immédiatement d'abandonner la première hypothèse du commissaire. Je me suis réveillée en pleine nuit, dit Alexandrine, avec un violent mal de tête, des douleurs au ventre. J'ai fait quelques pas dans le couloir, je suis tombée, mais j'ai pu regagner la chambre et comme je gémissais, mon mari m'a dit « je suis malade moi aussi ». Les chiens sont également malades. Nous avons dû manger quelque chose de mauvais. J'ai proposé alors d'appeler les domestiques, mais il s'y est opposé. Demain nous serons guéris, a-t-il dit. Et puis, j'ai dû m'évanouir. Alors, nous allons faire une première pause dans l'émission. Bien sûr, si vous avez des questions à poser sur l'ensemble, j'allais dire, du dossier Zola que nous ouvrons aujourd'hui, vous pouvez nous contacter sur le 3210 pour les coups de téléphone, le standard téléphonique d'RTL, ou alors rtl.fr pour les courriels. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
La mort d'Émile Zola, meurtre, suicide ou accident. Le suicide a été exclu très très rapidement. Le meurtre, on n'en parle pas du tout, même si on a à un moment suggéré que Madame Zola avait pu empoisonner son mari. On en a parlé il y a un instant et ça a été évidemment tout de suite abandonné. Alors, c'est l'accident, la thèse de l'accident domestique qui va prédominer. Alors, on va chercher une explication. Le valet de chambre a dit qu'il avait allumé le feu dans l'après-midi, donc on a pensé qu'après cette flambée, il avait fermé la trappe de la cheminée, mais que la suie accumulée dans le conduit avait continué à se consumer pendant la nuit, en produisant une dose mortelle de monoxyde de carbone. Et l'autopsie et les analyses chimiques du sang, selon la version officielle, j'insiste, confirmeront que les deux époux ont bien été intoxiqués, asphyxiés par du monoxyde de carbone. Alors, Henri Mitterrand, tout à l'heure, vous faisiez allusion à cette thèse de médecine. Vous avez été dans le jury. Que disait-il des constatations et de l'autopsie et des analyses chimiques ?
Il avait, ce docteur avait analysé à la fois sur le plan chimique l'état de la cheminée. Mm-hmm. Et d'autre part, il avait repris le dossier d'autopsie. Et il s'était rendu compte qu'il y avait une divergence considérable entre une autopsie qui concluait sans doute possible à une intoxication par l'oxyde de carbone, et puis les expériences qui ont été tentées dans les deux ou trois jours qui ont suivi.
Ah oui, on a essayé de reconstituer les
oiseaux. Ouais. On a mis des petits oiseaux dans la chambre. Ouais. On a reconstitué tant bien que mal.
On a rallumé du feu.
On a rallumé du feu, etc. Et un de ces oiseaux était dans un très mauvais état à la suite de l'expérience, mais les deux autres avaient survécu. Ouais. Alors il y avait là quelque chose qui
d'étrange,
qui
quoi.
C'est étrange, ouais, ouais. Je passe sur les détails, mais le médecin en question, docteur Jean-Louis Roy, concluait sans aucun doute à quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué tout simplement par un état de la cheminée, par un état banal de la cheminée.
Ça, c'est important, parce que... Voilà. Un mot encore, les réactions à la mort de Zola.
Les réactions à la mort de Zola, elles ont été ce qu'elles étaient avant la mort de Zola. C'est-à-dire que les journaux antisémites, les journaux nationalistes ont multiplié les plaisanteries de mauvais goût.
Voilà, on a fumé le cochon.
Le journal de Drummond, qui était la libre parole, qui était le torchon anti-juif de l'époque, a titré « Faits divers naturalistes ». Zola asphyxié.
Fait divers naturaliste.
Ouais, pour jouer sur la réputation de Zola comme romancier naturaliste. Et il y a eu quantité de phénomènes de genre. Et il faut savoir que même si j'accuse datait de 1998, c'est-à-dire 4 ans avant cet accident, l'affaire Dreyfus n'avait pas cessé pendant les 4 ans précédents d'empoisonner la vie politique en France. Ouais. Pourquoi ? Parce que Dreyfus avait été condamné une nouvelle fois en 1899 par la cour militaire de Rennes, parce qu'ensuite l'État pour apaiser les choses, avait décrété une amnistie pour tout le monde, ce qui faisait dire à Zola que les coupables, que les coquins et les malandrins étaient également asphyxiés.
Y compris pour Esterhazy, quoi.
Amnistié,
donc,
voilà, en particulier pour Esterhazy. Donc tous les ans, l'affaire repartait, et Zola, chaque fois, intervenait. Ouais. Donc il était toujours, véritablement, l'objet de cette haine dont on parlait tout à l'heure.
C'est pour ça qu'il n'a jamais été élu à l'Académie française.
Je crois que c'est pour d'autres raisons. Hein. C'est parce que l'Académie française n'acceptait absolument pas les thèmes de ses romans, la cruauté de ses critiques, la hardiesse de certaines représentations liées au sexe ou à la vie populaire, etc. D'accord. Là, il n'avait aucune chance d'être élu. Mais alors, l'affaire Dreyfus a complètement ruiné. D'ailleurs, il ne s'est pas représenté à partir de ce moment-là.
Absolument. Et d'ailleurs, je pensais à une chose en vous entendant évoquer l'affaire Dreyfus. Vous me dites si je me trompe, mais quand la République a décidé de panthéoniser Émile Zola, Dreyfus a voulu être présent.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ça, c'est encore une autre histoire qui mériterait une émission.
Une émission
bien sûr.
En soi, oui.
Personne, après la mort de Zola, n'a voulu remuer encore, si j'ose dire, les cendres de l'affaire. Même Madame Zola a hésité longtemps, pendant plusieurs jours, à accepter qu'Alfred Dreyfus soit présent parce qu'elle craignait des contre-manifestations, qui d'ailleurs ont eu lieu de toute façon. Dreyfus a tenu à assister aux obsèques de Zola. Quelques années plus tard, il a été totalement innocenté. Oui. Et puis, en 1908, la majorité de l'Assemblée d'époque a décidé de panthéoniser Zola. Oui. Il y a eu une cérémonie au Panthéon avec des contre-manifestations dans la rue, hein, toujours. Et un journaliste, qui se disait journaliste, qui s'appelait Grégory, au moment où la foule sortait, ou les officiels sortaient, a tiré sur Dreyfus, l'a blessé au bras. Donc, vous voyez, il y avait ce capital de haine
incroyable. Extraordinaire.
Il ne pouvait plus tirer sur Zola, il a tiré sur Dreyfus. Et d'ailleurs, chose étrange, peut-être étrange et naturelle compte tenu de la prudence politique des magistrats, le personnage a été acquitté un an plus tard.
Alors, on va faire une pause dans l'émission, on va se retrouver tout de suite après. Parler quand même de cette enquête bâclée, parce qu'elle a eu lieu, puis on a découvert un certain nombre de choses quand même. Et après, on verra comment est intervenu, 50 ans plus tard, un énorme rebondissement dans l'affaire.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est le professeur de littérature Henri Mitterrand, spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola. Je disais tout à l'heure que il est l'auteur évidemment de nombreux autres livres sur Zola, mais notamment d'une biographie en trois tomes parue chez Fayard de 1999 à 2002. Et le titre d'ailleurs du troisième tome, Henri Mitterrand, c'est L'honneur, hein, je crois.
Je l'ai intitulé L'honneur. Pour faire allusion à J'accuse et au rôle de Zola dans l'affaire Dreyfus.
Voilà. Et vous avez changé au fil du temps, vous, d'idée sur ce qui a pu se passer, parce que là, on peut le dire, quoi. Vous êtes convaincu de l'aspect criminel, peut-être pas forcément de l'homicide volontaire. Hein. On y reviendra.
Si vous voulez. Oui.
Bon, alors, maintenant, on va parler de l'enquête, parce que l'enquête, tout le monde a dit qu'elle avait été bâclée. Enfin. On a quand même que le commissaire Cornette là a quand même un peu travaillé. Qu'est-ce qu'on a découvert assez rapidement, parce qu'on a dû enquêter sur cette histoire de cheminée.
Ben on a cru pouvoir découvrir que la cause de l'asphyxie c'était le mauvais état de la cheminée.
Voilà, mais que des ouvriers avaient effectué des travaux.
On a su que des ouvriers avaient effectué des travaux sur une cheminée, sur un toit voisin, mais très curieusement, ils n'ont pas été interrogés.
On s'est dit, ah bah oui, mais alors ils devaient intervenir dans l'immeuble d'à côté, mais ils sont peut-être trompés. C'est une confusion.
Même pas. Même pas. Beaucoup plus tard, une thèse a surgi, proposée d'ailleurs par un ancien patron de la brigade criminelle de Paris, le commissaire Leclerc, qui avait reçu les confidences d'un monsieur qui, à l'époque, en 1902, était un jeune apprenti couvreur, et qui lui a dit, à cette époque-là, nous avons travaillé sur un toit voisin, et il est fort possible que, par mégarde, on se soit trompé, et on est placé sur la cheminée des Zola, ce qu'on appelle un bouchon. Mais il n'était même pas sûr de ça. Et en tout cas, cette société-là n'était pas du tout celle dont on va parler tout à l'heure.
Alors là, ça se passe en septembre, fin septembre, la mort de Zola. Dès le mois de décembre, le juge d'instruction, qui s'appelle Monsieur Brouillou, classe l'affaire, en fait, en accident, en disant, voilà, c'est le bouchon de suie qui devait être dans la cheminée, qui a continué à se consumer. Et en fait, ça arrange tout le monde, je crois.
Absolument.
Le gouvernement, évidemment, remettre de l'huile sur le feu.
Oui, puis c'est un fait divers extraordinaire. Tous les journaux titrent, en grosses lettres, la mort de Zola. Tout le monde en parle, c'est une forme de bombe dans l'histoire de l'opinion publique à l'époque. Donc,
Et Alexandrine, elle, ça l'arrange aussi, quoi.
Oui, elle est très embarrassée par tout ce qui traîne autour de son mari depuis des années. Sans parler de quelques aspects de la vie privée de Zola, qui avait une seconde famille. Bref, elle préférait que tout cela s'étouffe.
Circulons, y a plus rien à voir. Bon.
Voilà.
Alors, ça va être la version officielle pendant 50 ans. Puis arrive 1952. 1952, c'est le cinquantenaire de la mort de Zola. Et c'est là qu'intervient un journaliste qui s'appelle Jean Bedel. Qui involontairement d'ailleurs va lancer une sorte de pavé dans la mare. Pourquoi ? Parce que il travaille pour le journal Libération et on lui demande un papier, évidemment, c'est le cinquantenaire de la mort de Zola. Il fait ce papier, il évoque la mort accidentelle de Zola et puis quelque temps après, il reçoit une lettre d'un lecteur. Et ce lecteur lui raconte une toute autre histoire. Il s'appelle Pierre Aquin, il est pharmacien. Et il va expliquer, alors vous connaissez l'histoire par cœur, mais c'est un ancien habitant de Sarcelles, je crois.
Exactement.
Et alors qu'est-ce qu'il explique dans sa lettre à Jean Bedel ?
Il lui dit, j'ai un secret à faire connaître parce que je ne peux pas le conserver
plus longtemps.
À l'âge
que
j'ai, je ne peux pas le conserver plus longtemps. En 1928, j'avais un ami qui était un ancien fumiste, un ancien entrepreneur de couverture et de ramonage, et qui, se sentant très malade, cardiaque, m'a fait un jour la révélation que c'était lui qui avait tué Zola en bouchant la cheminée qui donnait dans la chambre des Zola.
Donc en bouchant volontairement la cheminée de Zola.
Il n'en dit pas plus et il ne donne pas le nom, il l'appelle Monsieur Z. Mais quelques années plus tard, dans un autre article, Jean Bedel, en 78, donc quand même beaucoup plus tard, a révélé le nom de cet homme qui s'appelait Henri Buron-Fosse et qui effectivement était un ancien couvreur. Le personnage en question est mort 3 mois après, en octobre 1928, 3 mois après avoir fait cette confession. Ouais. Alors évidemment, est-ce que c'était un mythomane ? Est-ce que il avait raconté la vérité ? On peut penser qu'à 3 mois de sa mort, se sachant prêt à disparaître, il avait voulu soulager sa conscience.
En fait, parce que quel intérêt de se dénoncer soi-même. Bon,
voilà.
Mais en même temps, il a dit, il y a un autre détail, il dit qu'il a bouché volontairement la cheminée et qu'il est revenu le lendemain.
Exactement. Le lundi
pour
matin.
Pour faire disparaître les traces de son intervention, quand même.
Tout à fait. Voilà.
Ça, c'est quand même très troublant.
Si nous n'avions que ce récit fait par Pierre Aquin, nous n'aurions pas encore assez de présomption, disons, pour affirmer qu'il y a eu effectivement ce crime.
Oui, là, vous parlez de vous, là.
Non.
Vous parlez de ce qui vous a convaincu.
Exactement.
Plus que ça, quoi.
Alors, beaucoup plus tard, il y a 3 ou 4 ans, un de mes collègues, Alain Pagès, lui aussi spécialiste de Zola, a repris l'enquête à partir des révélations de Pierre Aquin, et il faut lui tirer notre chapeau parce que il est remonté dans l'histoire de ce Henri Buron-Fosse, et il a accumulé des présomptions nouvelles.
Alors là, je vous arrête, on met des points de suspension, parce que Henri Pagès n'est pas avec nous, mais dans une émission que nous avons d'ailleurs consacrée ensemble à la mort de Zola, le journaliste Pierrick Bonneau, qui travaillait avec nous, était allé interviewer pour l'heure du crime cet homme. Alors on va faire une pause dans l'émission, et puis ensuite on va entendre donc l'interview de monsieur d'Alain Pagès, spécialiste également de Zola, hein, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous revenons sur cet incroyable rebondissement, donc on peut dater très précisément en 1952, puisque c'est la date à laquelle, au cinquantenaire de Zola, le journaliste Jean Baudel publie un article pour rappeler à la fois la vie et l'œuvre, hein, comme on dit, et bon, quelques lignes sur la mort accidentelle de Zola, et puis il reçoit donc quelques temps plus tard cette lettre du pharmacien de Monsieur Hennequin qui dit ben moi je peux pas garder ça pour plus longtemps pour moi, et qui lui parle de ce qu'on disait il y a un instant, voilà, un ancien ramoneur qui était qui était un voisin, qui était devenu un ami, m'a dit ben voilà, c'est moi, j'ai bouché la cheminée, et puis le lendemain je suis venu retirer le bouchon, donc c'est le crime parfait, quoi, finalement. Alors maintenant on va aller plus loin, pourquoi? Parce que un spécialiste, également un autre spécialiste de Zola, qui s'appelle Alain Pagès, qui est professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle, décide, puisqu'il y a un autre livre de Jean Baudel qui a été publié plus tard avec le nom du fameux ramoneur, il décide, le professeur, de mener lui-même sa propre enquête après ses révélations, et il va s'attacher à essayer d'en apprendre le plus possible sur la vie, bien sûr, et les idées politiques de ce fameux ramoneur dont on connaît enfin le nom, Henri Buron-Fos. Alors, écoutez ce que Alain Pagès a raconté de son enquête à Pierrick Bonneau pour l'heure du crime.
Moi, au fond, de quoi suis-je parti ? Je suis parti d'un nom, tout simplement. D'un nom, d'une identité, Henri Buron-Fos, d'une identité professionnelle, un fumiste, et il y a quelques années, essayant de réfléchir à ce que je croyais aussi, comme la plupart des biographes de Zola ou des spécialistes de l'œuvre de Zola, comme une rumeur plus ou moins fondée, essayant de réfléchir à cette rumeur, je me suis demandé s'il était possible de reconstituer la vie d'Henri Buron-Fos. Et je me suis aperçu d'une façon tout à fait extraordinaire que cette vie, effectivement, on peut la reprendre, la reconstituer, la retracer dans les moindres détails, et qu'il est tout à fait vraisemblable qu'un homme qui s'appelait Henri Buron-Fos, effectivement, ait bouché la cheminée de la chambre à coucher de Zola, et que ça ait produit la mort de l'écrivain.
Et quels sont les éléments concrets qui vous font dire ça?
La première affirmation qu'il est possible de faire, c'est que c'était pas une rumeur, hein, que cet homme a existé, qu'il lui avait été possible de se trouver sur le toit du 21 bis rue de Bruxelles où se trouvait Zola. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, c'est que cet homme, Pierre Aquin, qui est le témoin de cette confession, est loin d'être un imbécile. Ce n'est pas, au fond, une confession entre deux ivrognes un soir dans un café, mais c'est vraiment l'aboutissement de toute une histoire qui s'est déroulée entre ces deux hommes. Ces deux hommes se sont connus, ont mené ensemble des luttes politiques assez longues.
Vous êtes allé fouiller dans les archives également, c'est ça?
Alors voilà, c'est ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que les archives, je pense aux archives de l'État civil, je pense aux archives de Paris, je pense aussi aux archives de l'Aisne, car Henri Buron-Fos est né à Saint-Quentin dans l'Aisne en 1874. Au fond, quand on examine cet acte de fondation de l'entreprise que Buron-Fos a créé vers 1900, quand on examine même le livret militaire de Buron-Fos, on peut reconstituer d'une manière tout à fait plausible la vie de ce fumiste, et parmi les indices qui plaident en faveur de la vérité de cette confession, il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est que Buron-Fos était membre de la Ligue des Patriotes.
Hein. Donc un engagement politique qui vient appuyer cette thèse.
Engagement politique très clair. Qu'est-ce que c'est que la LDP, comme on disait à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle? La Ligue de Déroulède, c'est une organisation d'extrême droite, nationaliste, fortement anti-Dreyfusarde, et on peut penser que Buren-Fosse, membre de la Ligue des Patriotes, a commis son geste parce qu'il était évidemment influencé par tout le discours de la Ligue. Il a voulu donner une leçon à l'auteur de J'accuse.
Bon, alors, est-ce qu'il y a une certitude sur cet assassinat ou ça reste une hypothèse encore?
Non, je n'ai aucune certitude. Hein. Je crois qu'il faut vraiment affirmer que c'est une hypothèse. J'ajouterai quand même un argument qui est important, c'est que Buren-Fosse était un des commissaires de la Ligue des Patriotes. Il était donc membre d'un service d'ordre, un homme qui avait une certaine importance dans cette organisation, et il était capable justement d'aller jusqu'au coup de main, d'aller jusqu'à quelque chose qui est un attentat finalement.
Voilà, c'était le professeur Alain Pagès, le 24 février 2011, au micro de Pierrick Bonneau, pour l'heure du crime. On va faire une pause, une dernière pause dans l'émission. On retrouve mon invité, professeur Henri Mitterrand. Et puis, on va repasser un peu au crible l'enquête d'Alain Pagès, puisque c'était à la suite de cette enquête que professeur Mitterrand a été plus convaincu qu'il ne l'était avant. Alors de quoi ? Faut-il dire de l'assassinat ? Faut-il dire de l'homicide ? Volontaire ? Involontaire ? On va parler de tout ça dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Ce sont les dernières minutes de cette émission consacrée à l'énigme qui continue de planer autour de la mort d'Émile Zola en 1902. Voilà, et maintenant on va essayer d'aller encore plus loin, si c'est possible, et vous allez constater que c'est possible avec mon invité, le professeur Henri Mitterrand. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne quelques instants, Henri Mitterrand, sur ce que disait Alain Pagès à Pierrick Bonneau. Vous me dites, finalement, il est trop modeste, cet homme-là. Parce qu'il a fait d'autres découvertes très importantes.
Oui, enfin un indice étonnant. En se penchant sur les listes électorales du début du siècle, en allant dans le 4e arrondissement, il s'est aperçu que cet Henri Buren-Fosse, lorsqu'il a changé de domicile en 1903, s'est réinscrit sur les listes électorales et il a ajouté à ses deux prénoms, Henri, Charles, il a ajouté le prénom d'Émile.
Non.
On est à quelques mois de la mort de Zola. C'est un événement assez mystérieux. Ça s'ajoute à tout le reste.
Ouais. Et il a même, paraît-il, je crois que c'est lui aussi, Alain Pagès, qui dit ça, Buren-Fosse a même attribué le prénom d'Émile à son père, qu'il n'avait jamais connu.
Exactement.
Il faudrait appeler un psychiatre d'urgence. Il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoute en ce moment.
C'est un geste. À supposer qu'il soit effectivement le criminel, c'est un geste qui peut s'expliquer de toutes sortes de manières. Hein, ou une provocation, ou au contraire, un remords.
Alors, cela dit, Alain Pagès et vous-même, hein, quand vous écrivez sur cette hypothèse criminelle, vous pensez qu'il peut très bien y avoir eu une volonté malfaisante, mais donc quand même un homicide involontaire.
Il faut penser que c'est un garçon qui a 28 ans à l'époque, hein, qui vit toujours dans la fièvre des opérations qu'il a vu faire ou qu'il a faites lui-même au cours des années précédentes, des contre-manifestations, des gestes.
C'est très violent, hein, Paris, à ce moment-là.
Très violent,
beaucoup, oui, absolument.
Sur ce plan. Là. Donc, le hasard fait qu'il travaille sur un toit voisin de celui de Zola, et c'est mon hypothèse, l'idée lui vient tout naturellement d'enfumer ce cochon, de dire « Ah, ben voilà. Tiens, voilà, hein, à ma façon, je vais le punir. » Est-ce qu'il y avait vraiment l'intention de tuer le point d'interrogation subsiste. En tout cas, il commet un acte de malveillance qui est absolument criminel, et qui se termine par un meurtre, par le fait.
Alors, il y a encore un élément qu'on peut sortir de notre chapeau à quelques instants de la fin de l'émission. Vous connaissez évidemment cette dernière pièce qu'on va verser au dossier. Ce sont des propos, et non pas des confidences, mais des propos tenus par le commissaire Cornette, donc le commissaire du 9e qui avait mené le début de l'enquête, qui s'est confié en fait dans les années 20 à un de ses amis qui était un inspecteur retraité de la SNCF et qui en a parlé par la suite. Qu'est-ce qu'il lui disait ?
Mais il lui disait tout simplement qu'il avait fait son enquête de la manière la plus sérieuse possible, mais en obéissant à une pression, sinon explicite, au moins implicite, des autorités qui tenaient à ce qu'on étouffe l'affaire. Oui. Et 20 ans plus tard, il osait dire, lui, qu'il n'avait jamais cru véritablement à une asphyxie accidentelle et qu'il penchait plutôt vers une opération de type criminel.
Alors j'ai retrouvé les propos exacts tels qu'ils ont été en tout cas rapportés par ce retraité de la SNCF. Donc il faut se dire, je vais vous lire, hein, mais c'est le commissaire Cornette qui parle. Et il aurait dit à son ami les phrases suivantes. Oui, Zola est mort dans des circonstances très suspectes. Je ne suis pas tellement persuadé qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Hein. Bon, on peut pas être plus clair. Si on avait cherché davantage, on aurait découvert qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un accident, mais à ce moment, la France sortait à peine de l'affaire Dreyfus. Bon, là, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça a arrangé tout le monde, que ce soit plutôt un accident domestique qu'un meurtre. Et il parle aussi des polémiques créées par l'affaire des congrégations. Là, j'avoue que je ne sais pas de quoi. C'était avant la loi de séparation de l'Église et de l'État.
C'est l'époque où le gouvernement de défense républicaine se lance dans une série d'opérations qui consiste à mettre à distance toutes les organisations catholiques qui multiplie enfin les établissements d'enseignement. Donc ça va conduire à la loi de séparation de l'Église et de l'État, des choses de genre. Mais pour en venir à cette affaire, enfin personnellement, je considère que le faisceau d'indices qu'ont rassemblé Bedel, Alain Pagès a complété avec un collègue canadien d'ailleurs dont il faut également citer le nom, qui est mort récemment, Owen Morgan, c'est quelque chose de considérable, hein, et qui laisse vraiment un ensemble de présomption très sûre sur la culpabilité de cet Henri Buron-Fos. Mais il n'y a pas d'indice matériel, pas de preuve.
Si je voulais être l'avocat du diable, je dirais que votre médecin qui a fait sa thèse, ce qu'il dit dans sa thèse ne va pas dans le sens forcément de l'assassinat, puisqu'il dit les analyses sanguines qui relèvent du monoxyde de carbone ne sont peut-être pas...
Oui, c'est-à-dire lui, il semble bien convaincu qu'il y a eu quelque chose d'anormal.
Alors voilà, n'est-ce pas ? Donc anormal, on aurait pu penser empoisonnement ou autre chose. En tout cas, je voudrais simplement, je vous remercie beaucoup, professeur Mitterrand, d'être venu nous éclairer là-dessus, nous avoir aidé à décrypter cette sombre histoire. Je voudrais juste citer les dernières lignes de votre troisième volume de la biographie que vous avez consacrée à Zola, et vous dites « L'aveu d'Henri Buron-Fos, la révélation de Pierre Aquin, appui d'une force fantastique l'hypothèse criminelle, ce que vous venez de dire, qui fait de Zola un membre de la cohorte des martyrs du droit et de la justice. Finalement, c'est un martyr. Et il avait sa place au Panthéon. » Je vous remercie infiniment, l'émission est terminée. On va se retrouver lundi après un bon week-end, j'espère. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.